s'émire. Alors, même si nous avons déjà dévoilé quelques points tout à l'heure. Donc, cette présentation du rapport de la CEMIR de ce soir, avec mes collègues élus Dominique Santana et Benoît Petitpré, qui vont chacun présenter un des volets, entend en toute transparence vous faire un état des lieux de la situation de la CEMIR à différents niveaux, tout en rappelant l'importance de la CEMIR dans le cadre des politiques publiques que nous menons pour l'intérêt général. Et d'ailleurs, ça a été signifié dans le rapport de la CRC. Cette complémentarité nous est permise grâce au contrôle qui est exercé par la ville de Rambouillet sur la CEMIR en tant qu'actionnaire majoritaire, je rappelle, 51% des parts de la CEMIR. Comme vous le savez, la marge de manœuvre en termes d'attribution de logements sociaux pour les collectivités est faible. Toutefois, dans ce cas précis de la CEMIR, elle permet à la ville de pouvoir proposer à la commission d'attribution des candidats sur 73% de son parc de logements conventionnés. Alors attention, on est bien sur la proposition à la commission de candidature à la hauteur de 73% de son parc de logements. Après, vous le savez, il n'y a pas une candidature seule, il y a plusieurs candidatures et c'est en fonction des choix qui sont faits par la CAL. Mais tout de même, quelque chose de très important sur le territoire de Rambouillet. Et ainsi, par l'influence notoire que nous exerçons sur la CEMIR, comme il a été dit, vous retrouverez dans ce rapport l'importance donnée à la solidarité envers nos jeunes, notre personnel soignant et les populations fragiles. Cette importance qui se traduit à la fois par une gestion humaine et appréciée, mais aussi portée vers l'avenir en y intégrant nos préoccupations environnementales. Alors, la CEMIR, comme je le disais, c'est un vecteur d'attractivité au service de l'intérêt général, avec un parc de logements conséquent, et c'est Madame Santana qui va maintenant vous présenter ce parc que représente la CEMIR.
Merci Madame le maire. Donc je vais vous présenter le patrimoine de la CEMIR, c'est-à-dire un patrimoine qui compte 1071 logements. On va commencer par les logements familiaux au quartier historique de la CEMIR, c'est-à-dire la Louvière. Tout le patrimoine de ce quartier, soit 460 logements, datant donc avant les lois qui imposaient l'isolation des doit subir des rénovations énergétiques. Je veux bien, oui, parce que je vais m'énerver. Ça marche, ok. Doit subir des rénovations énergétiques, soit rue du Muguet, 138 logements, c'est l'ex-bar des 180. Square Kennedy, 180 logements. Et la demi-lune et le 51 rue du Muguet, 86 logements. D'autres logements familiaux se situent ailleurs dans la ville. Avenue du Parc, on a le Racinet, 75 logements. Rue Patenôtre, 16 logements. La Fontaine de Rambeuil, 75 logements. La Fontaine de Rambeuil, c'est le quai de l'Étang, hein, c'est vers Grousset. La Sablière, 45 logements. La Sablière, c'est à la place des l'ancien emplacement des services techniques. Antoinette Verne, 22 logements. Et Nicolas d'Angène, 40 logements, je crois. Mais les deux derniers, là, Antoinette Verne et Nicolas d'Angène, sont en vente actuellement. Donc, ils vont disparaître des chiffres. Oui, je précise aussi qu'ils sont en vente, mais que ce n'est pas du logement conventionné. Hein, c'est du logement intermédiaire. Voilà. Nous avons, ça, c'était les logements familiaux, et nous avons les logements spécifiques. C'est-à-dire, nous avons la résidence pour personnes âgées au numéro 1, 3 et 47 rue d'Angivillé et 14 rue Paul Doumer, 115 logements en tout. Les numéros 1 et 3 sont à rénover, sont en train d'être rénovés d'ailleurs, soit 80 logements qui viennent d'être conventionnés. Les logements étudiants, la résidence Pierre Reynaud, rue Patenôtre, avec 80 logements, et campus, 90 logements à l'hôpital, à moins que ce soit le contraire, non?
La résidence Reynaud, c'est celle qui est à côté de l'hôpital.
D'accord, ok. Donc, c'est Reynaud qui est à l'hôpital, 80 logements, et campus rue Patenôtre avec 90 logements. les logements jeunes actifs à la Sablière avec 28 logements et les logements d'insertion rue Lachaud et pavillon de Toulouse. Alors, on dit 18 logements, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un gros problème. On y reviendra un jour, certainement, mais actuellement, disons que c'est des logements sur lesquels on ne peut pas trop compter. On s'en sert pour loger des jeunes en urgence, mais...
Alors, juste pour préciser, parce que quand on dit ça, il faut aller un petit peu au bout. En fait, en effet, c'est ce qui fait partie des logements qui ont des performances énergétiques vraiment extrêmement dégradées. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne les comptons plus vraiment, parce que nous évitons absolument, la CEMIR évite absolument de les attribuer, sauf urgence absolue, mais avec immédiatement ensuite une possibilité de faire reglisser ces personnes-là sur d'autres logements. Donc voilà, c'est pour ça que pour le moment, on les compte différemment.
Alors justement, je vais passer aux rénovations énergétiques. Alors celles qui ont été réalisées, le Square Kennedy, la rénovation a été effectuée en 2011-2012 pour 180 logements. La Louvière 3, donc l'ex 180, la rénovation a été effectuée de 2020 à 2022 pour les 138 logements. Et le Racinet, la rénovation a été faite en 2020 pour 75 logements. En cours, les travaux commencés à la RPA, la résidence des personnes âgées. Et les études de financement ont débuté à la Louvière 4, c'est-à-dire la demi-lune et le 51, pour les 86 logements. On a un cas particulier, c'est la rue Patenôtre. Au début de la rue Patenôtre, vous avez une vieille maison en pierre, qui est très belle d'ailleurs. C'est une maison ancienne qui n'appartient pas à la CEMIR. C'est loué avec un bail emphytéotique. Pourquoi elle m'a mis un E ? C'est un A, non ? L'extérieur est protégé, peut-être bien classé, on ne sait pas, protégé. L'isolation ne peut donc se faire que par l'intérieur des logements et c'est impossible en milieu occupé. Donc ça devra se faire au fur et à mesure des départs des locataires et ils ne partent pas. Parce que sinon, on avait le projet de prendre cette maison pour mettre justement les jeunes en insertion, mais ça ne bouge pas, donc pour l'instant, c'est coincé. Alors, le prix de revient par logement des rénovations. Là, vous serez content, on a pris comme une unité de compte les logements. La Louvière 3, 28 000 euros par logement. Alors là, il faut voir quand même le prix que... C'est pas donné. Hein. Donc, ça, c'est de l'argent qui n'ira pas dans la construction. Hein. La RPA, 27 000 euros par logement. Le Racinet, 19 000 euros par logement. La Louvière 4, une estimation de 32 000 euros par logement. C'est une estimation, mais ça risque d'être dépassé parce qu'il y a un problème d'affaissement du terrain, il y a des problèmes, ça va être très compliqué. La Fontaine de Rambeuil, 36 000 euros, c'est une estimation aussi, mais il y aura certainement un dépassement et des difficultés pour l'accessibilité, par exemple, PMR. Seuls les halls 31 et 33 du quai de l'Étang pourront être équipés de rampes. Les autres entrées présentent des dénivelés trop importants. Alors, les résultats obtenus. J'ai un petit graphique, mais je ne peux pas vous le passer. Désolé. L'évolution de la performance énergétique du patrimoine CEMIR entre 2009 et 2022. Donc, en 2009... On avait une grande majorité des logements, presque 500 logements qui étaient en E, étiquette E. Et actuellement, au 31-12-2022, on est passé à presque 700 logements en C. C'est-à-dire que la part des logements CEMIR avec étiquette EFG est passée de 66% à 4% en 2022. Moi, personnellement, je peux dire que c'est un bon résultat.
Oui.
Franchement, donc ça vaut le coup de continuer. Hein. Et en plus, vous avez vu que à chaque fois qu'on commence un chantier de rénovation énergétique, on démarre les études sur le projet d'après. Toujours. Comme ça, on a plusieurs trucs. Là, actuellement, il y a des études qui ont commencé sur un chantier, sur Louvière 4. Les études sur Fontaine de Rambeuil sont pratiquement terminées. Et on a commencé le chantier sur la RPA. Donc, il y a un roulement comme ça, parce qu'on veut arriver au bout. Voilà, je laisse la parole à mon collègue, M. Petitpré.
Alors, juste avant de passer la parole à Benoît Petitpré, vous dire, alors, RPA, si vous avez repéré, c'est donc la résidence pour les personnes âgées, c'est le bon vieux temps. Et la fontaine de Rambeuil, si vous ne voyez pas où elle est en bas de la rue de la Providence, juste à côté de la pharmacie. Et en fait, là, il y a un dénivelé énorme. Et donc, il y a en effet des bâtiments sur lesquels il ne va pas pouvoir être installé une rampe d'accès parce qu'il n'y a pas la pente suffisante. Donc, ça signifie que pour des personnes à mobilité réduite qui seraient dans ces bâtiments-là, il y aura une proposition dans ce cas d'aller sur un autre logement. La proposition est faite. Ça n'est pas pour ça que les personnes acceptent, même si les sorties sont difficiles, mais on sait l'attachement que les personnes peuvent avoir à leur logement. Donc voilà, c'était pour vous resituer un petit peu où se situe, parce que nous, on les connaît, mais c'est vrai que dans Rambouillet, Fontaine de Rambeuil, on ne sait pas forcément ce que c'est. Oui, Monsieur Schmitt.
Oui, je suis très content d'entendre effectivement le score, de passer de E en C. Ça, c'est un peu que s'en féliciter. Donc, il y a deux petites questions. Histoire de donner un peu de volume à vos propos, là. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, d'évaluer l'économie que ça représente, soit en euros, soit en mégawattheure, soit ce que ça représentait?
Non, ça n'a pas été fait par la CIMIR.
Non, d'accord, ok.
Non, ça n'a pas été fait par la CIMIR.
En plus, avec les variations du prix de l'énergie.
Oui, c'est pour ça que je ne vous montre pas.
Ah oui, mais on ne peut pas, ce n'est pas possible.
Si,
oui, d'un jour à l'autre, ça change.
Non, mais sinon, mais soit on le fait.
Ah ben, faites-le alors.
Ah non, mais. Soit on le fait, je veux dire, soit on le fait en euros, soit on le fait en mégawattheure. Mais ce n'est pas le sujet. Et vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas bien grave. Et est-ce qu'on a un projet de passer de C, de monter un cran au-dessus ou
on sera... Alors, je réponds, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce qu'on part avec des bâtiments qui sont quand même déjà très anciens. On a déjà obtenu du C, ce qui est assez extraordinaire. Et il n'y aura pas, de possibilité d'avancer.
Je voulais juste, il me semble, me rappeler que quand les premières études sont arrivées, ils avaient imaginé qu'on pouvait économiser 4 degrés, c'est-à-dire aussi bien en chaud qu'en froid. Voilà. Mais c'est il y a 10 ans quand les premières études, je crois que c'était Kennedy d'ailleurs. On a commencé par Kennedy et c'était 4 degrés, que ce soit ou en chaud ou en froid, au niveau économie. Voilà.
Alors, plus, excusez-moi, mais les économies et tout, ça dépend tellement de la situation des appartements, s'ils sont au cinquième, s'ils sont au ras des caves, s'ils sont en pignon, c'est pas possible.
Alors, pour continuer sur ce rapport, donc, comme je vous le disais, la CEMIR, c'est un soutien indispensable à la politique menée par la ville de Rambouillet. Et soucieuse de soutenir le tissu économique local et d'apporter des réponses concrètes et adaptées au domaine de la santé, la municipalité s'appuie aussi sur la CEMIR afin de proposer une offre de logement adéquate. À titre d'exemple, c'est à signaler, la CEMIR travaille directement avec les ressources humaines du centre hospitalier pour qu'elles aient la capacité de proposer immédiatement un logement avec le contrat de travail d'un médecin ne venant pas du territoire. Ainsi, en seulement un an, la ville de Rambouillet a pu accueillir en son sein 4 médecins, dont un interne. Et c'est un effort que je tenais à porter à votre connaissance au moment où nous, élus locaux, vous le savez, connaissons des difficultés partout en France en matière d'offres de soins. C'est donc une réponse tout à fait adaptée et concrète. Et je peux vous dire qu'elle fonctionne parfaitement bien parce que dès qu'il y a un recrutement avec une personne disant qu'elle n'a la problématique pour venir sur l'hôpital de Rambouillet et le logement, eh bien immédiatement, la direction des ressources humaines appelle la CEMIR et nous trouvons une solution. La CEMIR et la municipalité travaillent aussi ensemble afin de rendre le territoire plus attractif et adapté au marché du travail, d'une part en attirant des jeunes travailleurs et d'autre part en répondant aux besoins des entreprises rambolitaines et du Sud-Yvelines, ce qui est important. Sur la seule année 2022, nous avons pu accueillir 17 stagiaires et 15 apprentis avec des profils très différents et un loyer accessible et éligible aux APL, tout cela sans frais de dossier et d'instruction. Ça, c'est très important parce qu'en fait, souvent, les stagiaires et les apprentis et dans les entreprises, c'est la difficulté qu'ils rencontrent. Et ça, on le voit au niveau de l'agglo, c'est que si les jeunes veulent trouver un logement, il y a des frais de dossier. Or, ils ne peuvent pas multiplier les frais de dossier. Et bien là, la CEMIR ne leur fait pas payer ces frais de dossier d'instruction. C'est aussi une opportunité pour nos jeunes étudiants. Je rappelle que nous avons 2200 étudiants sur la ville de Rambouillet qui bénéficient de deux résidences étudiantes. Donc, comme il a été dit, une à côté de l'ESSIM et l'autre à côté de l'hôpital. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner que les centres d'enseignement rambolitains eux-mêmes nous ont fait part de l'importance que relève pour eux l'engagement de la CEMIR. Et puis, je voudrais aussi revenir au cœur même de l'engagement porté par la CEMIR, c'est permettre une accessibilité raisonnée au logement des populations fragiles. C'est dans cette dynamique que nous sommes fiers de vous présenter ce soir des chiffres parlants qui illustrent notre sensibilité certaine portée vers l'aide aux populations fragiles. Ainsi, 41% des attributions sont faites à des familles monoparentales, 27% des attributions à des ménages sans emploi ou en CDD, ou encore 75% des ménages aux revenus à qui sont attribués des logements ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de revenus du PLUS. Donc la CEMIR est une réussite d'inclusion et d'intégration cohérente avec les politiques sociales que nous maintenons depuis 3 ans. Et c'est pour cela qu'il est important de s'appuyer sur le rapport d'activité fourni par la CEMIR pour continuer à avancer. Et nous pouvons légitimement affirmer que la CEMIR est pour la ville de Rambouillet un soutien solide pour répondre aux défis sociaux, économiques et sanitaires qui s'imposent. Et sur la suite, eh bien, l'expérience positive des locataires, tout ce qui est prévu également, je vais laisser la parole à M. Petitpré.
Merci Madame le maire. Alors, quand on parle de la CEMIR, on parle de logement social. Je voudrais recadrer ou expliquer dans quelle politique générale sur la ville on est au niveau du logement social. Alors d'abord, il faut savoir aujourd'hui qu'il manque 600 000 logements en France et qu'il faudra en construire et que 60% de la population est éligible au logement social. Ça, c'est un postulat de base et il faut l'intégrer dans tous nos raisonnements. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on est encadré par une loi, qui est la loi SRU, laquelle oblige toute commune de plus de 3500 habitants à avoir 25% de logements sociaux. Comme ce n'est pas le cas pour la plupart des communes, la loi a engagé une politique de manière à pousser les communes, qui sont les acteurs principaux pour la création de logements sociaux, dans une politique dynamique et incitative d'atteindre ce taux de 25%. C'est pour ça que quand on n'a pas le taux de 25%, l'exemple la commune de Rambouillet qui est à 21,5%, l'État calcule l'écart entre les 21% et les 50%, et les 25%. Pour nous, c'est à peu près 450 logements qui manquent et nous met un quota par triennal pour pouvoir rattraper ce nombre de logements. Donc, nous avions une triennale entre 2020 et 2022. Nous avons une nouvelle triennale entre 2023 et 2025 et nous aurons encore une après. Il se trouve que dans la triennale 2020-2022, je rappelle le contexte, un contexte électoral d'une part, avec un arrêt de beaucoup de politiques pendant un an, une période de Covid qui a duré 2020-2021, puis une période de crise en 2022. Et donc, avec un objectif de 241 logements sociaux à construire pendant cette période-là, ou à conventionner dans cette période-là, nous en avons conventionné 4. Et c'est comme ça à l'échelle de beaucoup de communes. J'ai discuté avec un collègue d'une autre commune des Yvelines, dont la triennale avait été de moins 7. Donc, voilà, c'est quand même un résultat. On n'avait pas de stock. Il y a eu un arrêt de la promotion immobilière. Et donc, on n'a pas pu engager cette politique dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il se passe quand on est, quand on fait pas la triennale? Il se passe qu'on peut être carencé. Alors, d'abord, quand on n'a pas le taux de 25%, on est en déficit, et auquel cas on a des pénalités de déficit. Pour la commune, je crois que ça représente de l'ordre de 140 000 euros. Et quand on est déficitaire au niveau d'une triennale, il y a une décision du préfet de région, laquelle va intervenir pour nous au mois de novembre, qui va nous dire déjà si on est carencé, s'il nous enlève un certain nombre de possibilités de gestion de notre PLU au niveau de la commune, et si, d'autre part, ils ne nous mettent pas une pénalité supplémentaire qui peut aller jusqu'à 500 000 euros. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et ce contexte est un contexte de gestion du logement social très comptable, puisque dans cette définition de la loi SRU, il ne rentre rien en termes de mixité sociale, d'intégration, de services, d'accompagnement de ces populations. Qui plus est, l'attribution à plus de 80% se fait de manière extraterritoriale sur des logiciels qui permettent d'affecter les gens dans telle ou telle zone. Donc aujourd'hui, au-delà de cette gestion de la loi SRU, on a tout ce phénomène de gestion sociale à proprement parler de l'intégration qui n'est pas fait. C'est pour ça que maintenant, dans le cadre de la politique générale de la ville de Rambouillet, nous avons bien sûr décidé de contribuer à l'effort de l'habitat sur la ville en tendant vers le taux de 25%, mais en ne le faisant pas n'importe comment et en essayant d'intégrer au maximum avec un certain nombre d'outils. C'est pour ça que, d'une part, on fait la révision du PLU, d'autre part, qu'on définit un certain nombre d'OAP, d'opérations d'aménagement programmé, qu'on a pris une convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France pour pouvoir financer des acquisitions, qu'on va essayer de prendre aussi des programmes de rénovation et de promotion avec le département, et qu'on veut signer le contrat de mixité sociale dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est cet ensemble de choses qui permettra d'avancer. Et la SEMIR fait vraiment partie, comme on l'a vu, sur la partie des attributions, d'un outil absolument indispensable pour la commune, pour pouvoir maîtriser, justement, qu'on n'affecte pas la ville de Rambouillet. Des gens, comme on a vu, qui viennent d'Argenteuil, qui vont travailler le matin là-bas, qui reviennent le soir, qui partent à 6h du matin, qui rentrent à 10h. Entre 6h et l'heure d'ouverture de l'école, les gamins sont à l'abandon, et ils sont à l'abandon de 17h à la sortie des écoles jusqu'à 20h ou 21h le soir. Ça, c'est pas possible, et ça fait des banlieues et ça fait des ghettos. Donc, c'est ce pour lequel on étudie des formules beaucoup plus approfondies, peut-être pas exactement en conformité avec les objectifs de l'État à court terme, mais qui permettent une véritable intégration des populations qu'on fait venir. Voilà le contexte général dans lequel on travaille et dans lequel on a avancé depuis maintenant 3 ans pour pouvoir avoir un certain nombre et de répartir aussi ces logements à l'échelle humaine, en tenant compte des communautarismes, en tenant compte de l'esprit d'urbanisme de Rambouillet, de notre aération de la ville, etc., etc. Et je passe tous les critères. Pour ce qui est de la SEMIR, et pour rentrer dans le vif du sujet du rapport, donc la SEMIR est notre outil. Il a pour objet la construction et la gestion de logements conventionnés, la construction et la gestion de logements non conventionnés. L'actionnariat est à 52% pour la commune, pour 18% Adestia, qui est une filiale de CDC Habitat, en fait c'est CDC Habitat, et la Caisse des dépôts pour 30%. Et sa gouvernance, donc le président-directeur général de la SEMIR est Véronique Matillon. Il y a 7 conseillers municipaux qui sont membres du conseil. Nous avons des représentants de la Caisse des dépôts, nous avons un représentant de l'Adestia, et nous avons des personnalités extérieures individuelles qui ont une action ou deux. Au sein de l'organisation de la SEMIR, il y a une commission et un comité d'attribution des logements dans lequel siègent des élus. Et c'est qu'on a expliqué tout à l'heure et qui nous permettent d'avoir 73% d'attribution et de le faire en relation avec toute notre politique de logement. Nous avons une commission d'appel d'offres qui attribue les marchés contrats supérieurs à 200 000 euros de travaux et 90 000 euros pour les fournitures et prestations. Cette CAO est aussi constituée de membres du conseil municipal, ainsi que de deux membres extérieurs, le directeur de la CAO et M. Barbery, qui est un grand robolitain qui connaît ces problèmes depuis longtemps. Il est constitué aussi d'un comité stratégique qui a pour but d'apporter un éclairage au conseil d'administration préalablement aux toutes les séances et à l'approbation des comptes, les grands engagements d'opération et la stratégie de développement de la société. Donc, siègent dans ce comité stratégique deux élus, la Caisse des dépôts, l'Adestia, ainsi que M. Barbery, qui connaît le sujet depuis bien longtemps. Les principales opérations qu'ont réalisées la CEMIR en année 2022, alors là, on a déjà distinguer un certain nombre, en particulier sur la réhabilitation énergétique et sur toutes les actions sociales qui ont été mises en place. Je tiens à préciser que la CEMIR a fait l'acquisition en VFA de 82 logements dans le secteur de la Giroderie, donc le nouveau quartier qui va être créé, qui sont conventionnés dans notre triennale 2023-2025. En marge de la réhabilitation énergétique de la résidence du Bon Vieux Temps, il y avait 80 logements non conventionnés, mais déjà attribués, qui vont passer en conventionnement, ce qui nous fera aussi 80 logements qui passeront dans notre triennale, alors qu'ils étaient déjà faits et habités. Donc c'est simplement le conventionnement qui fait que ça nous est bénéfique dans la triennale. Il a été élaboré une préparation d'une augmentation de capital. En effet, la CEMIR est une petite société qui a beaucoup construit, mais qui doit asseoir ses capitaux propres. Et donc, il a nécessité, pour qu'elle puisse aller plus loin, et en particulier pour qu'elle fasse l'opération de la Giroderie, et qu'elle puisse conforter son capital social. La commune n'étant pas très riche en liquidité pour pouvoir augmenter ce capital, plutôt apporter un terrain qui se situe à côté de la résidence Verne, un terrain vide à construire. Donc, on a apporté en nature un capital aux capitaux propres de la société, ce qui permet, pour garder la parité avec les autres actionnaires de la CEMIR, qui apporteront, eux, une quote-part en capital, de maintenir l'équilibre 52%-48%. Donc, on aura une augmentation de capital qui sera faite, d'une part, de l'apport en nature de ces terrains de la ville de Rambouillet et de l'apport en numéraire de nos partenaires au conseil d'administration. On a préparé la vente des logements de la résidence Verne. En effet, dans la volonté de financer les prochaines réhabilitations énergétiques de notre patrimoine, la CEMIR a préparé la vente de 46 logements non conventionnés de cette résidence. Le choix s'est porté sur celle-ci pour plusieurs raisons. Le ministère des Armées, qui avait réservé tous les logements pour accueillir ces gradés, n'avait plus d'officiers à affecter sur le secteur. Ces niveaux de loyer étaient trop élevés et n'apportaient pas de plus-value sociale. De plus, l'exploitation financière de cette résidence était déficitaire. Tant l'emplacement que la qualité des logements en font un produit facilement commercialisable à un niveau de prix intéressant. Donc, la CEMIR, en s'appuyant sur GIE, service client, pour tous les aspects juridiques et marketing dans un premier temps, puis dans la commercialisation, attend de cette vente une plus-value comptable de 8,3 millions et un bilan de trésorerie de 11,7 millions, qui nous permettra aussi d'apporter des financements sur la partie principale de notre activité. On a étudié l'intégration d'une foncière commerce qui n'a pas abouti, à cause d'un niveau de prix trop élevé des prix de vente du commerce sur la ville de Rambouillet et d'une intervention trop lourde sur le plan financier. On a mis fin au mandat d'administration de la société confiée à la SET, c'est-à-dire que la SET est une société qui dépend de la Banque des Territoires et qui nous mettait à disposition le directeur, la gestion administrative, financière, comptable, les ressources informatiques, les ressources humaines et la paye, et la gestion des opérations de construction et de réhabilitation. Donc, on s'appuyait beaucoup sur la SET pour faire fonctionner la CEMIR. La SET ayant choisi de se désengager de ces activités-là, avec un préavis extrêmement réduit, Nous avons réintégré tous ces services à l'intérieur de la CEMIR en rembauchant le directeur et en structurant la CEMIR des services nécessaires pour pouvoir fonctionner. Néanmoins, tout n'a pas été réintégré au niveau de la CEMIR. La CEMIR a pris des partenariats avec DGIE parallèlement à ça pour pouvoir assurer des compléments de services qu'elle ne pouvait pas faire en interne en n'ayant pas les compétences. Il a été créé un comité social économique au sein de la CEMIR. On a essayé de procéder à l'élection des représentants des locataires. Malheureusement, il n'y a pas eu de candidat. Au niveau de la qualité des services, il a été procédé à une enquête de satisfaction des locataires en place. Cette enquête de satisfaction a abouti à un taux de 87% de satisfaits, ce qui est plutôt un bon résultat et qui conforte les actions de la CEMIR. Il a été commandé une autre enquête de satisfaction des locataires sortants, ce qui est intéressant aussi, pourquoi ils sont sortis et si leur satisfaction. Le taux de satisfaction est apparu à 83%, ce qui est aussi un taux élevé par rapport à des départs, puisqu'il y a forcément aussi, parmi ceux qui sont partis, des insatisfactions. Et donc, c'est normal que ce taux soit plus faible que celui de l'ensemble des habitants. Il a été mis en place un espace Internet pour les locataires et une analyse de l'entretien du patrimoine. La CEMIR est reconnue pour son effort financier extraordinaire consacré à l'entretien et à l'amélioration du patrimoine. En 2022, la CEMIR a dépensé 2 216 000 euros pour l'entretien du patrimoine. La Fédération des établissements publics de logement examine chaque année les comptes de toutes les SEM immobilières avec un décalage de 2 ans. Donc, pour nous, le dernier résultat est en 2020. L'effort de la maintenance de la CEMIR s'est monté à 1 480 euros par logement, alors que la moyenne nationale est de 653. Donc, on est à un peu moins des deux tiers au-dessus de la moyenne nationale, ce qui est à témoigner comme quelque chose de performant et qui contribue largement aussi au bien-être des gens dans les logements sociaux. Et donc, il est important que dans notre politique d'intégration et d'équilibre de ces secteurs locatifs sociaux, nous fassions un effort important sur la qualité des logements. Je passe sur ce qui a déjà été dit au niveau de la performance énergétique. Il a été aussi instauré un livret de bonnes pratiques pour la maîtrise de la consommation d'eau à l'usage de tous les usagers et nouveaux entrants dans les appartements de la CEMIR. Voilà pour ce qui est des actions. Pour ce qui est de la situation financière, pour 2022, le résultat net des comptes de la CEMIR s'élève à 1 443 000, avec un autofinancement brut de 1 540 000. Et le bilan, puisqu'il faut bien parler de bilan dans une société comme celle-là, les capitaux propres s'élèvent à 17 048 000 euros, avec un fonds de roulement à 6 695 000 et une trésorerie à 7 565 000. Donc, il y a un état très sain de la CEMIR. Alors, il ne faut pas voir la masse des chiffres, il faut voir la masse des investissements qui sont faits derrière, la masse des entretiens qui sont faits pour pouvoir vraiment juger. Et donc, c'est pour ça qu'on établit un plan pluriannuel de croissance qui nous permet de définir les besoins et surtout une prévision des comptes une fois qu'on aura établi toutes ces et de financement, de manière à garder sur un horizon à 10 ans des comptes sains au niveau de la CEMIR. Voilà pour ce qui est des finances. Au niveau des ressources humaines, donc les collaborateurs, il y en a son nombre de 12. On utilise donc tous les outils à la fois de la ville et de la Caisse des dépôts et de CDC Habitat pour dresser les perspectives de développement de la CEMIR. Le plan à moyen terme a été actualisé et présenté en conseil d'administration le 20 octobre. Son approbation de l'année dernière, je dis bien, son approbation avec de nouvelles modifications est attendue en 2023. On parlait de l'équilibre entre activités agréées et activités non agréées, donc logements libres et logements sociaux aidés. Ça s'équilibre avec plus de chiffre d'affaires sur l'activité non agréée que sur l'activité agréée. Par contre, un équilibre du résultat pour chacune des activités, ce qui permet de maintenir un équilibre financier en offrant à la fois du logement social aidé et du logement social locatif pour des catégories intermédiaires d'habitants. Donc voilà l'équilibre que se crée la CEMIR. Et j'en ai fini avec les présentations de ce rapport.
Merci beaucoup. Donc vous avez pu constater que ce rapport, en fait, nous montre deux tendances. La première, déjà, c'est l'engagement de la CEMIR auprès de la municipalité et qui s'intègre totalement dans la cohérence et la complémentarité en responsabilité sociale et aussi environnementale que nous, on a mené jusqu'à présent, depuis le début du mandat. Et le second, c'est vraiment l'engagement au profit vraiment de l'intérêt général et d'aujourd'hui et de demain, en permettant aussi de réfléchir aux logements qui seront construits. Et cette gestion saine qui a été présentée à travers quelques chiffres va nous permettre, et la gestion rigoureuse des comptes nous permet aussi de pouvoir envisager de continuer à créer du logement social tout en équilibrant, bien sûr, puisque nous devons toujours équilibrer ces opérations. Et c'est vrai que cette gestion rigoureuse et saine, eh bien, ma foi, c'est la même qu'adoptée pour la ville de Rambouillet et nous travaillons vraiment ainsi de concert. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui. Ce ne sont pas des questions. Puisque... Bon, déjà, vous avez répondu à une première interrogation qui était l'apport d'un terrain. Donc, pour l'augmentation de capital, je ne voyais pas à quoi ça correspondait, mais vous avez répondu. Parce que dans le rapport, c'est simplement une ligne en disant qu'il y a une augmentation de capital par un terrain, mais on ne sait pas trop exactement ce que ça représente. Donc, merci de l'information. Vous avez répondu aussi à l'externalisation donc, du directeur des responsables administratifs et financiers, puisqu'il y a eu cession au niveau des entreprises, donc il n'y a pas de souci. Vous parlez des départs. Donc, a priori, il y a eu très peu de départs de personnes volontaires, 8%, si j'ai bien lu dans le rapport. Il aurait été posé la question de leur motivation et les raisons pour lesquelles ils étaient partis. Un certain nombre ont donc répondu sur le fait qu'ils avaient pas forcément d'extérieur, de balcon, des choses comme ça. Donc mon interrogation est de savoir si dans les programmations futures, on va prendre en considération ces aspects-là, c'est-à-dire que l'extérieur aujourd'hui est plus qu'important, surtout depuis le Covid. Donc est-ce que ces éléments-là seront pris en considération ? Vous avez bien spécifié donc, au niveau de l'utilisation de l'Internet, puisque aujourd'hui, il y a un système qui a été monté et les locataires se doivent de régler leur loyer à travers l'Internet, ainsi de suite. D'accord, donc c'est ce que je voudrais...
C'est une alternative. Hein.
Voilà, c'est ce que je veux souligner, c'est de savoir s'il y a une obligation... Parce que nous avons quand même un certain nombre de personnes dans ces logements
qui sont âgées et qui n'ont pas accès.
Voilà, exactement. Donc, c'est une possibilité, mais on est bien d'accord. Les statuts de la CEMIR expriment d'une manière plus générale pour accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière, immobilière. Là, je me posais la question de savoir si, dans le cadre de ces possibilités, quand je vois qu'il y a un certain nombre d'appartements dans la ville de Rambouillet qui sont à vendre, j'ai vu par exemple rue Patenaud, 3 appartements en façade résidence de la Garenne, qui peut-être correspondent à des studios ou des choses comme ça. Est-ce que la CEMIR a la possibilité de faire l'acquisition ? Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'on avait une enveloppe qui se développait pour essayer de faire des acquisitions. Est-ce que ça rentre dans ses rôles ou pas ?
Alors, ça pourrait rentrer dans ce rôle, mais acheter de manière disséminée des appartements pour les gérer après, c'est quasiment impossible dans le cadre d'une politique de logement encadré. Donc aujourd'hui, si on veut faire du pick-up de logements qui seraient libres ou à vendre, d'abord, ils sont extrêmement chers, donc ils ne sont pas accessibles au niveau de la CEMIR. Donc aujourd'hui, toutes les acquisitions se font par des constructions. On ne rachète pas des appartements, c'est inaccessible.
D'accord. Je voulais simplement vous l'entendre dire. Alors, j'ai lu dans le rapport Afin d'optimiser son offre, les élus représentant la ville ont voté et obtenu chaque année l'absence de distribution de dividendes pour réinvestir ses bénéfices dans l'entretien du patrimoine, ses réhabilitations énergétiques et la construction de logements sociaux neufs. Alors, est-ce qu'on ne peut pas modifier les textes pour dire qu'il n'y a pas de dividendes pour l'ensemble des élus et...
Alors non, c'est, attention, hein, les dividendes, ce n'est pas pour les élus. Les
non,
dividendes,
pour
c'est pour les actionnaires. C'était soit c'était
oui, je
pour
sais,
la
mais
ville.
Tous les actionnaires de la ville de Rambouillet.
Alors, les actionnaires, je vais vous dire franchement qu'on a beaucoup d'actions en déshérence et qu'il y en a quasiment.
De toute façon, c'est une question de loi. On ne veut pas traiter différemment des actionnaires d'une société.
C'est ça.
Donc, soit on distribue à tout le monde, soit on distribue à personne. Ça, c'est la loi. Donc, ça, c'est la base.
Non, mais ce que j'entendais de la part de M. Bernard, c'était pour voir si on ne pouvait pas enlever complètement la possibilité d'actionnariat
ouais,
et d'avoir des dividendes.
Il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas de dividendes.
D'avoir des dividendes,
c'est pas
non.
Une société,
mais la société est montée de telle façon qu'elle est montée avec de l'actionnariat et qu'on ne peut pas interdire le versement de dividendes, mais que c'est en conseil d'administration que l'on décide et que comme nous sommes majoritaires. C'est nous qui décidons qu'il n'y a pas de versement de dividendes. Et je peux vous dire que nous nous bagarrons pour cela, parce que les autres actionnaires, pas les actionnaires individuels, loin de là, mais que Adestia et la Banque des Territoires, c'est tout de même un comble, sont demandeurs de dividendes.
Très bien, ben je suis content d'entendre ça. Et je reviens sur les actions. Bon, on en a déjà parlé, il y en avait qui étaient en déshérence, on était prêt à acquérir des actions pour pouvoir participer de façon efficace dans la CEMIR. Bon, on n'en a pas eu, mais je vois quand même qu'il y a toujours des tas d'actions. C'est a priori historique, parce que je vois qu'il y a des représentants d'entreprises, des personnes, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un assainissement de ça? Parce que très sincèrement,
si,
je n'arrive
si,
pas
si,
à comprendre.
Si, si, c'est en cours.
D'accord.
C'est en
donc,
cours, mais
c'est
ça
en
demande...
cours, mais c'est toujours pas finalisé.
Alors, non, parce que ça demande un grand travail, c'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a plus, quand les personnes sont décédées, en fait, il y a toute une procédure avec généalogiste lorsqu'on ne trouve pas les héritiers. Et je peux vous dire que ça demande des dizaines d'années. Vraiment interrogeant comme système, mais on ne peut pas faire autrement, en fait.
D'accord. Ok, voilà. C'était les questions qui nous étaient venues en lisant ce rapport.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Tout a été dit par nos collègues.
Alors, c'est parfait. Bah, écoutez, tant mieux. Donc, c'est donc une prise d'acte. Alors, je vous laisse... eh bien, on va prendre... Qui prend acte? Eh bien, c'est à l'unanimité.